podcast France Culture.
Le fait que l'ONU ait mis en avant une cause environnementale reprise par des scientifiques a eu une influence très très importante au début quand il s'est agi de définir la stratégie de lutte contre le choléra.
Quatrième épisode, le combat contre l'épidémie.
Fin 2012, début 2013, Haïti a un plan de lutte, même un plan d'élimination du choléra. Et ce plan-là commence, dans son résumé stratégique, par dire « On veut éliminer le choléra en Haïti, mais comme la bactérie est dans l'environnement, ça veut dire qu'il y aura toujours des cas. Et s'il y a toujours des cas, à quoi bon s'acharner à chercher les derniers cas? À quoi bon, finalement, éliminer ? Tout ce qui reste à faire, c'est essayer d'améliorer le niveau de vie d'Haïti, et ça peut prendre des décennies, voire plus, pour que le choléra ait de moins en moins d'impact. Et ça représente un magnifique plan, mais un plan sur des décennies, et qui aura du mal à être financé, parce que c'est même pas vraiment chiffré, mais enfin, à la fin, il y a quand même marqué, il faut 2,2 milliards de dollars. Personne n'est prêt à donner 2,2 milliards de dollars au gouvernement haïtien pour organiser les soins, la prise en charge des patients, l'accès à l'eau potable pour la population. Et en plus, ça ne suffirait même pas. Autrement dit, le plan est un affichage pour dire on prend en compte l'histoire, mais comme on est sur l'idée qu'on ne se débarrassera pas du choléra, on ne cherche pas à faire quelque chose qui pouvait venir naturellement, qui est de se dire on va essayer de casser les chaînes de transmission. Casser les chaînes de transmission, c'est faire en sorte qu'une personne qui a le choléra contamine pas son entourage et l'entourage de cet entourage ne soit pas contaminé. Un peu comme quand on fait le contact tracking dans les épidémies de Covid maintenant. On le faisait aussi dans les épidémies d'Ebola. Et ça n'est pas dans le plan. À partir de 2013, avec des collègues, en particulier marseillais, et nos collègues haïtiens, on a essayé de sensibiliser des décideurs. Je commençais par l'ambassadeur de France que j'ai rencontré fin 2012, et puis surtout le représentant de l'UNICEF pour lui dire « il y a quelque chose qui est possible ». Il faut que l'on agisse autour des cas et qu'on essaye de limiter la transmission et d'étouffer petit à petit l'épidémie, en particulier dans les périodes d'accalmie, quand il reste quelques foyers, par exemple pendant les saisons sèches, pour justement éviter que ce soit ces foyers qui relancent l'épidémie au niveau de l'ensemble du pays. Et on est là au bout de 3 ans de lutte sans grand succès. Les acteurs sont quand même assez désespérés et le représentant de l'UNICEF dit « Banco, je vais faire tout mon possible pour qu'on puisse faire ça ». Et l'UNICEF se met à coordonner un groupe d'organisations non gouvernementales qui va agir en relation avec les services haïtiens, les hôpitaux et les services d'épidémiologie pour que chaque fois qu'on repère des cas de choléra quelque part, des équipes se rendent sur place et aident à limiter la transmission. Alors comment on peut aider ? En aidant les familles à protéger leur eau, puisque l'eau est vraiment un vecteur très important. On leur donne des comprimés de chlore, on leur donne de quoi la stocker de manière correcte, en traitant aussi l'environnement. S'il y a une source, en mettant un point de chloration, une personne qui est là, qui va chlorer l'eau à chaque fois que les gens viennent chercher de l'eau pour les ménages, et aussi en traitant les sujets contacts. Des gens qui sont de la famille même d'une personne qui vient d'être hospitalisée pour choléra, ils sont peut-être en train d'incuber le choléra. On va leur donner un traitement très simple, un antibiotique qui tue la bactérie du choléra, de manière à ce qu'on arrête la maladie avant qu'elle se déclenche. L'ensemble est appelé des interventions centrées autour des cas. En anglais, ça fait « Case Area Targeted Interventions », des CATI. Et c'est cette technique des CATI qui existait pour la maladie Ebola, qu'on avait déjà essayé sur le choléra aux Comores, qui va être utilisé. Et petit à petit, on arrive un peu à contrôler, mais on manque d'argent, on manque d'équipe. Alors, en 2016, quand Ban Ki-moon fait ses excuses au peuple haïtien, et d'ailleurs ajoute derrière, on va donner de l'argent pour la lutte, là, effectivement, on se dit, c'est le moment de pousser. En réalité, l'ONU n'a pas d'argent. Donc l'ONU ne donne pas d'argent. Mais l'ONU peut être là pour dire aux autres, donnez de l'argent. Ça marche plus ou moins. Il promettait 400 millions, il en est arrivé 20, et encore sur les 20, 10 millions sont arrivés alors qu'il y avait déjà plus de choléra. Mais avec les 10 millions qu'on a pu avoir, plus d'autres financements, le Japon, le Canada, la Banque mondiale, il y a eu suffisamment d'argent pour augmenter le nombre de ces équipes qui intervenaient auprès des cas. Et à partir de fin 2016, il y a eu une baisse plus importante du nombre de cas de choléra que la baisse des financements. Donc petit à petit, on avait de plus en plus d'équipes par rapport au nombre de cas et on a pu intervenir sur chacun des cas. Le choléra continuait à persister sous la forme de petits foyers pendant encore l'année 2018 et début 2019. Le dernier cas de choléra a eu lieu dans le delta de l'Artibonite, dans une ville qui s'appelle Lester. Et depuis, il n'y a plus un seul cas de choléra. On en est à 3 ans. Normalement, l'OMS devrait déclarer l'élimination du choléra. Elle ne l'a pas fait parce que les experts de l'OMS continuent à se dire « Mais comment ça se fait ? Le choléra devait être dans l'environnement, il devait y avoir des cas, c'est qu'on ne les a pas encore trouvés. » On a toujours un débat entre l'UNICEF et l'OMS en particulier. L'UNICEF veut dire « Mais il n'y en a plus, ça fait 3 ans, il n'y en a plus, c'est terminé, on passe à autre chose. » Et l'OMS dit « Oh, mais quand même, la théorie environnementale dit que... » Et cette théorie, ce paradigme environnemental n'a pas totalement disparu. Un certain nombre de personnes commencent à le remettre en question. Je vous ai parlé de 2 scientifiques qui le portaient particulièrement. L'une, professeur Rita Colwell, continue à dire paradigme environnemental, tout ce qui est côtier.
Direct correlation.
Il y a une corrélation directe
change on human health.
Entre le changement climatique et la santé humaine.
L'autre, David Sack, travaille maintenant sur le choléra en Afrique. Il vient de publier un article pour dire, en Afrique, et en Haïti, mais il ne veut plus parler d'Haïti, en Afrique et en Haïti, c'est pas comme en Asie. Le choléra, c'est plutôt des personnes qui le transportent, qui amènent l'épidémie. L'épidémie flambe, puis ça passe à un autre endroit, etc. Donc, il reprend l'histoire telle qu'on, finalement, on l'a avec les casques bleus népalais. Mais il continue à se dire, mais en Asie, quand même, faut encore passer un peu de temps, et je pense qu'il comprendra que cette théorie environnementale était fort sympathique, très belle, mais elle n'explique pas ce qui s'est passé en Haïti, elle n'explique pas ce qui se passe dans plein de pays d'Afrique où, tout d'un coup, on peut avoir une disparition du choléra, parce qu'en fait, il ne persiste pas dans l'environnement. Il suffit d'agir suffisamment près des foyers pour pouvoir l'éliminer. Donc, on n'a pas encore tout appris dans la lutte contre le choléra. L'histoire de l'épidémie d'Haïti se déroule sur une période de 10 ans. Et elle commence justement par le décryptage du génome de la souche haïtienne assez tôt. C'était quelque chose qui était difficile à faire à ce moment-là, qui permet de lire la totalité du génome, comme ce serait un livre avec 4 millions de caractères, c'est un gros bouquin. Hein. Et la totalité du génome est connue et c'est ce qui a permis très rapidement, dans l'année 2011, de comparer ce génome avec le même livre écrit au Népal et pour voir que c'était la même chose. Et en fait, c'est le début d'un travail plus systématique qui a consisté à reprendre les souches qui avaient été conservées, d'abord de toute la période de la 7e pandémie de choléra qui a commencé en Indonésie en 1960. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, toutes les souches était apparenté, se relier. C'est comme un arbre qui revient sur un même tronc qui nous amène au début de la pandémie en 1960. Il n'y a pas une souche épidémique de choléra avec une épidémie de dizaines ou de centaines de cas qui ne soit pas le descendant de cette souche qui sévissait en Indonésie dans les années 60. Ça veut dire que les autres souches de Vibrio cholerae qui sont dans l'environnement n'interviennent pas dans les épidémies de choléra. Parce qu'il y en a plein dans l'environnement, il y a une très grande variété. Mais toutes les souches de choléra découlent d'une seule qui était en Indonésie en 1960. On est passé d'une histoire d'un choléra environnemental, réchauffement climatique, à une histoire d'un germe qui va s'équiper petit à petit, comme dans les jeux de rôle, il va récupérer la bonne épée, le bon bouclier, etc. La bonne manière de se transmettre, et plus il se transmet d'homme à homme, moins il a d'interaction avec les autres vibrios cholérés de l'environnement. Ils finissent par s'ignorer mutuellement, si bien que quand, après une épidémie, le choléra va dans l'environnement, eh bien, il ne persiste pas. Il disparaît. Et c'est l'homme, en transportant le vibrio choléra d'un endroit à l'autre, qui est responsable de ces épidémies. Ça peut changer radicalement la manière d'aborder la lutte contre les épidémies, mais il faut encore un peu de temps pour que ce changement de paradigme fasse son chemin. Toute cette histoire apporte quand même un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'une épidémie, ça n'est pas que la sommation des cas, ça n'est pas qu'un problème de santé publique, c'est un problème politique, c'est un problème stratégique, et si on va sur une pandémie, ce sera encore plus important. Donc, quelque chose qu'il faut gérer avec les décideurs, et il y a un problème à régler de communication entre scientifiques et décideurs. La deuxième chose que j'ai apprise dans cette histoire, c'est la dualité de la parole scientifique. Elle peut aider. Des scientifiques peuvent apporter des informations, des explications, mais elle peut tout à fait aller dans l'autre sens si les explications ne sont pas les bonnes. Et il y a quelques allers-retours entre scientifiques et politiques. Quand on prend l'histoire du choléra en Haïti, le fait d'essayer de montrer un point de départ différent de ce qu'il était a désorienté les scientifiques. Mais les scientifiques eux-mêmes, en apportant une théorie inadaptée, ont désorienté les politiques. Et l'un plus l'autre finit par amener à une épidémie à perdurer quand on a déjà les moyens de s'en débarrasser. On ne le sait pas. On n'applique pas les bonnes méthodes simplement parce qu'il y a eu cet aller-retour entre scientifiques et politiques. C'est quelque chose de très important qui va être un souci dans d'autres épidémies.
Mécanique des épidémies, première saison, le choléra. Réalisation Clément Nouguier. À la technique, Julie Garraud. Conseillère au programme, Camille Renard. Avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À venir, Mécanique des épidémies, deuxième saison, le sida.